Dans les coulisses de la mort à l'œuvre, le photographe Steve Juncker et le journaliste Thierry Mertona se sont intéressés aux femmes et aux hommes chargés de gérer les morts violentes, oubliées ou accidentelles, autant de morts survenues hors du contexte habituel de l'hôpital ou de la famille. Leur ouvrage commun s'appelle « Levée de corps ». Un ouvrage donc qu'il co-signe et qui s'inscrit peut-être en porte-à-faux avec la fameuse phrase de Saint Jean « Laissons les morts enterrer les morts et recomposons des vivants ». Alors, vous abordez Steve Juncker et Thierry Mertona des services imbriqués. Vous tentez, je crois, de montrer l'espace autour des morts. Vous ressuscitez aussi la réalité du fait divers qui intéresse la rue. Et puis, en même temps, peut-être vous déplacez quelque part un point de netteté sur des réalités peu connues, pas taboues nécessairement. Alors, quels sont un petit peu, Thierry Mertona, les différents temps de ce récit? Il y a d'abord 30 récits de levée de corps, et puis ensuite plusieurs services qui sont décrits dans leur fonctionnement, et après des portraits, des témoignages.
C'est en deux temps. Tout ça est construit, je crois, en deux temps. C'est d'abord le temps de l'intervention. Il s'agissait pour nous de suivre... comme on suit l'ombre de quelqu'un, les inspecteurs, les légistes et les croque-morts intervenant dans des lieux où il s'agissait de procéder à une levée de corps, dans le temps même de l'intervention, que ce soit de jour ou de nuit, en partant avec eux, en étant avec eux et en les quittant finalement après qu'on ait signé le transfert du corps vers la médecine légale, donc une espèce de partage de ce travail-là, d'une certaine manière, aussi bien sous l'angle photographique que sous l'angle journalistique, au sens prise de note de ce qui se dit, de ce qui se fait dans le temps de cette intervention. Et puis, le deuxième temps pour moi, mais aussi pour Steve, puisqu'après tout, chacun des intervenants a son portrait dans le livre, il s'agissait de retourner voir les uns et les autres pour les faire parler sur leur travail, en utilisant le passé, en leur posant un certain nombre de questions sur quelle est la mémoire d'une levée de corps. Voilà, une curiosité que j'avais et que j'ai voulu un peu fouiller. La question revenait pour chacun d'eux. Ils sont 18 dans le livre. Et chacun a dû à un moment donné me répondre à cette question. Quel souvenir gardez-vous de votre première levée de corps? Quelle a eu lieu il y a 15 ans, il y a 20 ans ou plus encore en arrière, puisqu'un certain nombre de croque-morts notamment, ont une expérience, une durée dans la levée de corps, si je puis dire, qui est assez redoutable. Voilà.
Alors, dans ce séjour d'assez longue durée dans la maison des morts entourée des vivants, vous avez eu, je crois, une Virgile, une inspectrice, enfin quelqu'un que vous avez rencontré au départ, qui s'appelle, je crois, Carole Laurent, qui a un petit peu un regard comme cette héroïne de la série télévisée Cold Case, c'est-à-dire c'est Cold Case qui aborde tout simplement ces cas qui n'ont pas été résolus dans les années 60 et 70 et qui sont repris par des inspecteurs à la fin des années 2000 avec cette inspectrice qui est absolument fabuleuse. Donc Carole Laurent, c'était quelqu'un qui vous a conduit déjà, qui vous a introduit un petit peu dans ces différents paliers vers ces lieux.
C'est quelqu'un qui nous a encouragé sans doute à prolonger le travail et à étirer le temps de ce travail, non pas sur une semaine comme souvent c'est le cas quand on se fait accorder un reportage dans un lieu particulier. Souvent ça n'est qu'un jour, souvent ça n'est qu'une nuit, parfois un peu plus une semaine. Et là, en l'occurrence, on a travaillé sur une année, ce qui était effectivement, en termes d'autorisation, si vous voulez, formelle, assez particulier. Alors c'est sûr qu'une inspectrice comme cette femme que vous venez de citer, qui s'appelle Carole Laurent, qui a 34 ans aujourd'hui, elle a ceci de singulier, c'est qu'elle était dans ce service comme jeune stagiaire et qu'au sortir de sa formation d'inspectrice de la police judiciaire, elle a demandé à pouvoir intégrer cette brigade dite du commissariat et à y travailler à plein temps pour une durée indéterminée. Donc elle était particulièrement motivée, elle était volontaire et dans l'histoire même de cette brigade, c'est la seule fois qu'une personne s'est portée véritablement volontaire pour faire ce travail particulier et le faire pleinement pendant 4 ans de sa vie professionnelle. Et de surcroît, c'est une femme, et elle a plein de qualités, effectivement. Donc, sans être le fil rouge du livre ou quoi que ce soit, C'est quelqu'un qui est dans son acharnement et dans son abnégation, nous a sans doute un tout petit peu inspiré.
Alors Carole Laurent, on va tout de même un tout petit peu s'y attarder. Elle se retrouve dans plusieurs des images, je crois, signées par Steve Juncker, ou alors je m'abuse, en tout cas en pull, à col roulé notamment. On la retrouve au premier plan, en train de manipuler des corps. Et puis en même temps, dans le témoignage qu'elle vous fait, Thierry Mertena, il y a déjà cette notion d'odeur, c'est-à-dire que en fait, quand elle se promène en forêt, elle sent quelque part la mort, comme un chien sentirait une proie. Et c'est cette question olfactive vis-à-vis de la mort, elle revient à plusieurs reprises.
C'est Steve Juncker qui, très justement, un jour me dit, mais de tous des cinq sens, celui qui a la meilleure mémoire, c'est l'odorat. Parce que l'odorat se souvient d'à peu près tout et c'est une mémoire associée, c'est-à-dire une odeur en rappelle une autre, etc. Et l'odeur du cadavre se retrouve dans quantité de situations triviales et domestiques, et qui, tout d'un coup, le cadavre ressurgit, il peut être quelque part dans une assiette, il peut être dans une poubelle, il peut être dans toutes sortes de matières dégradées et tout. Et c'est vrai que cette inspectrice, au gré de son travail, a acquis un nez particulier qui fait que, comme d'autres d'ailleurs, elle pouvait renifler la mort avant même probablement de rentrer dans un immeuble. Quoi. Elle le raconte. Alors quand elle va se promener en forêt en famille avec son mari et son enfant, il suffit qu'une bête crevée soit cachée derrière un arbre, elle la renifle avant même de la voir. Mais je crois qu'on y arriverait aussi aujourd'hui avec l'expérience acquise.
De cette odeur, pour y rester encore pour une station, Steve Juncker témoigne l'une de vos photos, c'est la photo de l'encoignure d'une fenêtre sur laquelle sont concentrées des mouches. On verra après avec Thierry Mertena son regard de plans successifs et de cadrages successifs dans ces levées de corps et la manière de pénétrer une image véritablement, plus qu'un texte d'ailleurs. Sans doute. Donc qu'est-ce que vous, de quelle manière aussi ça vous a frappé au plan déjà olfactif, et puis le fait que justement vous concentriez peut-être sur des détails, c'est-à-dire ces mouches qui peut-être suggèrent la pestilence, la putréfaction, la nature plus que morte.
Tout le travail photographique s'est quand même intéressé à éviter tout ce qui pouvait être de la caricature. La mort, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, est très photogénique. Elle est très facile à photographier. La preuve, beaucoup d'artistes s'y sont appliqués. Ce qui pour moi était compliqué, c'était de ne pas tomber dans le panneau, justement, de cette image facile, tout en gardant en tête aussi qu'il fallait bien sûr respecter les personnes décédées, ainsi que les vivants qui étaient autour de ces personnes décédées. Donc il n'y avait pas seulement d'éléments qui m'ont obligé à devoir effectivement, obligé volontairement, et avec un fort intérêt, de me rapprocher du détail. Parliez des points de netteté qui s'échappent, comme ça, qui ne sont pas toujours fixés là où on s'attend à les voir. Parce que je trouve intéressant dans une photographie de balader les yeux, ce que pour finir peu de gens font. Passablement personne pense que la photographie suffit à regarder d'un coup d'œil, mais cette photographie souvent a une odeur. Ce point de netteté placé là où on ne l'attend pas oblige l'œil à se balader. En se baladant, on se rencontre avec des odeurs, puisque ça a été aussi une des thématiques, c'était pour finir que ces images ne soient pas juste que des images, mais que quelque part elles transportent une mémoire olfactive qui pouvait faire penser. Alors de nouveau, quand on pense à la mort, on peut penser à tout type d'odeur, quand on ne l'a pas senti. On imagine bien, on a tous eu dans le frigo un fromage qui était très, très très vieux, ou alors un morceau de viande qui était dépassé, donc on peut s'approcher un tout petit peu de ces réalités, à part qu'elles sont, quand il s'agit de vrais cas et de vraies morts, amplifiées fortement. Et quelque part, ce sont des odeurs collantes. Si j'ai vraiment cherché le détail, c'est que je pense que c'était là la plus belle chose à faire pour parler de la mort.
Alors, chercher le détail, c'est pas prendre le lecteur pour un pré-retraité du regard. C'est aussi le fait de dire que la mort est la partie liée avec vous depuis assez longtemps, et sous des formes diverses. Vous avez notamment réalisé un travail photographique en lien direct avec cette mort à l'œuvre, et donc à l'occasion de plusieurs prises de vue. Alors, qui sont pas nécessairement comme celles de Richard Avedon pour son père mourant à l'hôpital à New York, mais disons qui sont celles, effectivement, je crois, d'un ami séropositif. Et j'aimerais reprendre une phrase de Walter Benjamin, il n'y aura pas beaucoup de citations, mais celle-ci, je la fais quand même. « Si la photographie est politique, écrit Walter Benjamin, c'est donc parce qu'elle se partage de façon éminemment... C'est donc qu'elle se charge de façon éminemment mortelle de la question de la mort. » Alors, le rapport entre la photographie et la mort... est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours travaillé, vous, plus concrètement?
Moi, c'est pas la photographie et la mort. Moi, c'est la curiosité personnelle. La photographie est un outil qui me permet de me rapprocher de choses que j'estime être des choses pertinentes et curieuses. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que la mort, on l'a toujours pas identifiée. On ne sait pas pourquoi elle arrive. Hein. L'accident de voiture, bon, ben voilà, on a un accident de voiture, on est coupé en deux, on sait qu'on va mourir parce que voilà, parce qu'on sait qu'on est fait de, on est fait de chair et d'os. Mais enfin, pour des morts type crise cardiaque, on sait toujours pas ce que le corps humain sécrète ou décrète à un moment donné pour dire maintenant stop, on va arrêter ici. Donc cette curiosité de cette mort qui apparaît sans qu'elle soit réellement choisie, et puis le fait qu'on va tous y passer et que j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à vivre et à dire, donc il y a vraiment une curiosité, une peur qui m'a rapproché depuis bien longtemps maintenant, effectivement, de cette thématique que j'ai exploité sous plein d'autres formes que celle qui est présentée là maintenant, qui est peut-être l'aboutissement d'un travail photographique sur cette thématique de la mort. Mais je crois que j'aurai la peine à m'en échapper. C'est une curiosité. Comme il n'y a pas de réponse, il n'y a donc automatiquement que des questions, et puis les questions en amènent d'autres. Et donc, voilà, c'est un cas. Je ne sais pas si j'ai répondu, parce que j'ai pas...
Mais les résonances par rapport à votre propre parcours, quand on prend le lever de corps, la dernière photo qui est celle-ci, qui est comme un œilleton qui se referme et qui révèle, je crois, la crémation d'un corps, c'est donc le devenir auquel vous avez déclaré à plusieurs médias souhaiter, en tout cas au jour d'aujourd'hui, être celui de votre trajectoire post-mortem. Voilà, avec tout ce que ça peut éviter de ce que vous avez peut-être vu ou croisé. J'aimerais donc savoir, plus précisément, qu'est-ce que ça a aussi réveillé en vous, ce parcours? Qu'est-ce que ça a sollicité en vous comme qualité de regard, comme qualité de présence vis-à-vis de ces personnes, et la manière peut-être où ça peut s'imbriquer avec votre propre vécu, Steve?
C'est énorme, votre question. Elle est compréhensible comme incompréhensible. C'est-à-dire qu'en même temps, j'avance avec, comme je l'ai dit, je crois, tout ce qui m'a toujours motivé à faire, ou en tout cas à proposer certains sujets, ça a toujours été une vraie curiosité, des questions que je me pose sur des gens, sur des styles de vie. La photographie est souvent un prétexte pour m'approcher de ces réalités-là. Maintenant, ce que ça m'a réellement apporté, ça m'a apporté d'abord un contact avec des gens qu'on connaît mais qu'on ne connaît pas. Ça m'a permis de me rendre compte que dans ce métier extrêmement difficile et difficile à tout point de vue, eh bien, il y a des gens tout à fait énormes d'humanité, et c'est peu de le dire, et ça peut paraître de nouveau caricatural, mais ça ne l'est pas. Quand on se retrouve dans des situations extrêmement, extrêmement violentes, on s'aperçoit que si ces gens n'étaient pas là, je crois qu'on n'y tiendrait pas. Et ça a été quelque chose d'extrêmement fort, c'est de se rendre compte que pour finir, ces gens vivaient des choses énormes au quotidien et qu'ils avaient des vies qui évidemment étaient, je pense, choquées pour certains et qu'ils arrivaient à s'en contenter, à vivre avec ça et tout en diffusant quelque chose d'extrêmement positif pour tout le parcours et tout le temps qu'on a passé avec eux. Ça a été effectivement super, super riche. Et c'est peut-être ça, c'est la rencontre aussi, c'est la rencontre.
Alors justement, cette rencontre, Steve Juncker, vous redoublez une pratique photographique qui est inscrite dans le modus operandi, c'est-à-dire le mode opératoire d'un certain nombre de ces travailleurs de la mort qui interviennent, c'est-à-dire le fait de faire des relevés photographiques d'une scène, qui n'est pas une scène de crime nécessairement, mais qui est une scène peut-être à l'extérieur où un corps a été projeté dans des directions multiples suite à sans doute peut-être un suicide sur des voies ferrées, ou que ce soit quelqu'un qui est tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Enfin, il y a toute une manière, comme on le voit dans des séries comme Les Experts ou d'autres, disons, de topographier comme ça. Vous êtes un petit peu une espèce de double embaumement, c'est-à-dire que vous venez aussi en même temps surajouter quelque chose, ou je ne sais pas, comment vous voyez votre inscription?
Je vois très bien, en tout cas, on travaillait souvent en parallèle avec les photographes, en l'occurrence des photographes de la balistique, qui font eux un travail de constat. Moi, j'étais pas là pour constater. J'étais là pour m'intéresser aux travailleurs, à ces mains, à ces gens qui vont toucher ces corps qu'on ne touche plus, surtout, même y compris pour des familles proches, des décès à la maison. La mort fait peur, on ne connaît plus l'odeur, on ne connaît plus ce que peut représenter une peau ou une chair morte, que ce soit au toucher. Donc c'était sur ce travail-là que j'ai décidé de passer la plus claire partie de mon œil. Donc j'étais évidemment pas du tout dans cette photographie de constat telle qu'on peut effectivement la visualiser dans les séries ou l'imaginer ou même les voir dans des livres qui sortent de plus en plus, qui sont des livres d'archives reprises de justement Los Angeles dans les années 60, le photographe de la police qui sort ses archives et qui met toutes ces photos type constat. C'est vraiment quelque chose que moi personnellement je voulais éviter, parce que je les trouve évidemment, avec le recul, quand on parle des années 60 et dans des situations particulières, ce constat peut devenir extrêmement beau, extrêmement violent, et c'est là où je parlais de la caricature Et la facilité de photographier la mort, c'est qu'on est toujours dans des constats, dans des images tellement, tellement surnaturelles qu'elles paraissent être presque plus proches de Hollywood que de la mise en scène que d'une réalité. Moi, j'avais envie de quitter ça pour justement aller le plus près possible de cette réalité et pour une fois, si possible, ne pas avoir des images qui font une systématique par rapport à l'esthétique qu'on a tendance à rajouter à peu près à n'importe comment, n'importe où. Alors, plein de gens peut-être trouveront ces images esthétisantes, mais enfin, ça n'a pas été du tout l'objet de ce travail. Ça a été vraiment de se rapprocher, si possible, de gens, de morts, d'une odeur et d'une couleur.
Alors justement, cette couleur, et puis après peut-être aussi Thierry Myrtheun un peu réagir vis-à-vis de ça, c'est qu'effectivement, vous avez choisi d'abord la couleur face au noir-blanc. Je crois qu'il y a une raison quand même très profonde dans ce choix. Et puis d'autre part, effectivement, dans les couleurs, alors d'un côté, j'ai cru comprendre qu'il y avait un respect de la lumière naturelle. De l'autre, j'ai l'impression de me retrouver parfois dans des tableaux de Lyotard, hein, avec ses émaux, ses transparences successives, notamment aussi dans les portraits, mais ici, il y a évidemment des correspondances avec l'histoire de l'art, par exemple celle-ci qui est forcément prodigieuse. Donc il y a une manière aussi d'amener le regard, pas nécessairement référentiel, mais aussi ailleurs. Alors qu'en est-il peut-être déjà sur le choix de la couleur, et puis après ces choix quand même avec ces flous et ces nets sur l'hypothèse du tableau volé presque.
Alors concernant les références, pour parler, parce que c'est intéressant de rebondir directement là-dessus, c'est qu'il n'y a en l'occurrence de ma part aucune référence. Il n'y a pas une volonté de documentation avant ou de coller à une systématique, de se rapprocher comme beaucoup d'artistes le font pour se justifier un travail. Moi, ce qui me demandait de travailler et ce qui me justifie ce travail, c'est l'intérêt et la curiosité que j'avais envie d'aller vérifier. Donc c'est vrai, et je crois qu'il faut pas se mentir, je crois que la mort a un visage, elle a une image. D'échapper clairement à cette image, elle correspond à peu près, on est tous des humains sur Terre qui pensons, qui avons à peu près peur des mêmes choses. Donc quand on voit effectivement une main marquée d'une alliance qui a été enlevée de peur, soit de la perdre, ou pour peur de se la faire voler, ou encore pour garder un souvenir, évidemment que cette personne décédée va marquer ou va garder une trace. Je pense que si un peintre ou un dessinateur ou même un écrivain se trouvait à cet emplacement-là, il aurait relevé, s'il faisait le travail de la même manière et on va dire aussi intelligemment que nous, aurait relevé la même chose. Donc je crois qu'en même temps, il y a une universalité dans la manière de regarder certaines choses, et encore quand elles sont compliquées, je crois que les regards s'aiguisent et deviennent suffisamment pointus pour aller taper dans les mêmes détails. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle de références, parce qu'en fait ces références, elles sont universelles, elles existent depuis la nuit des temps, et puis je pense que ça continuera. Simplement, c'est vrai que beaucoup d'artistes se justifient de ces références pour se donner un talent particulier, et je trouve pas toujours juste de justifier la copie ou le rapprochement pour justifier une curiosité, qu'elle soit saine ou malsaine.
Vous voulez que je réagisse? Oui, Thierry Myrtheun, peut-être par rapport, disons, à déjà ce fait simplement, effectivement, du choix de la couleur, une couleur qui peut paraître, alors le terme est très très spécieux, mais disons, peut paraître un petit peu délavé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a des transparences, mais il y a en même temps une puissance vibratoire, qui est très importante. On a presque l'impression du regard d'un nouveau-né sur une réalité de ce point de vue-là, même si elle est hyper travaillée, mais on a presque l'impression aussi d'aplats de couleurs à certains moments donnés, vraiment de choses qui renvoient à la fois à de la peinture ultra contemporaine, style Hockney ou d'autres, et puis des choses qui renvoient vraiment aux Ars Moriendi, aux vanités, qu'on pense à Champagne ou à d'autres, ou à Rembrandt avec par exemple cette dissection où il y a un corps qui est comme une orange qui a éclaté.
L'auditeur qui vous écoute aura peut-être envie de penser à un moment donné que toutes ces images ont été retravaillées de façon impitoyable sur écran d'ordinateur. Pour avoir eu la chance de suivre le processus de sa prise de vue jusqu'à sa mise au propre sur l'écran de l'ordinateur, sans avoir pour autant surveillé le travail de Steve Juncker du début à la fin, au contraire, c'était profiter d'être à un moment donné aussi de l'intérieur et de voir comment les choses se font. Je peux vous assurer que les couleurs qui sont dans ces images, je les ai vues de mes yeux vus, de jour comme de nuit, et les rouges chasubles qui ressortent et qui nous sautent à la figure quand on se retrouve sur une voie de chemin de fer, avec à sa gauche une cuisse qui ne ressemble plus à rien, et à sa droite un pied qui dépasse d'un drap. qui recouvre un corps qui n'en est plus un, c'est des vrais rouges, quoi. C'est le rouge chasuble, c'est très frappant à quel point. On parlait avant des odeurs, les odeurs associent comme ça ou créent des espèces de cousinage entre elles. On peut presque dire un peu la même chose des couleurs. Un jour, dans une conversation, Steve disait assez justement, si on avait publié mes images en noir-blanc, on aurait raflé tous les prix. Alors, on aurait pu se partager les prix, puisqu'on est 50-50 dans cette histoire. Peut-être qu'il faudra, si on réédite une fois le livre, j'en sais rien, il sera peut-être à un moment donné en noir-blanc, et on ira chercher les prix qu'on mériterait peut-être d'avoir. Mais en l'occurrence, non, pour l'instant, il n'y a pas eu de prix. C'est signe que le choix était juste.